Alexandre Geffen, bonjour. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, spécialiste de littérature contemporaine et des humanités numériques. Vous publiez « Vivre avec ChatGPT » aux éditions de l'Observatoire. Pour commencer, ChatGPT ou ChatGPT ?
Moi, je pense qu'il faut apprivoiser le chat et donc on peut prononcer ChatGPT.
Très brièvement, pour ceux qui étaient sur une île déserte et qui n'en ont pas entendu parler, qu'est-ce que ChatGPT ?
C'est un outil qui répond à vos questions et qui effectue un certain nombre de tâches linguistiques, traduire, résumer, développer, argumenter, et qui s'apparente à ce qu'on appelle un modèle de langage, ou plus précisément un large modèle de langage, et c'est donc de l'intelligence artificielle.
En juin 2023, en gros, est-ce qu'on peut dire qui l'utilise ?
Alors, on n'a pas de chiffres précis, mais c'est plusieurs centaines de millions d'utilisateurs.
Des utilisateurs qu'on arrive à définir ?
Je ne sais pas parce que, vous savez, c'est une société américaine, OpenAI, qui ne donne pas son audience. Mais ce qu'on sait, c'est que, par exemple, dans l'université, dans les écoles, dans le monde de l'apprentissage, de l'enseignement, c'est extrêmement utilisé déjà. De même pour la traduction et pour toute une série de métiers qui l'emploient depuis déjà quelques mois.
Alors, vous expliquez comment ChatGPT fonctionne et vous utilisez pour cela de très nombreux exemples. Effectivement, vous dites mon chat. On voit que la même question posée à quelques jours d'intervalle ne donne pas la même réponse.
Non, parce que c'est un outil qui apprend de ses erreurs. Et ce qui fait que lorsqu'il vous dit une bêtise, il y a quelques chances, ce n'est pas toujours le coup, lorsqu'il hallucine, on dit qu'une intelligence artificielle hallucine lorsqu'elle invente un résultat, plutôt que de reconnaître qu'elle ne sait pas, eh bien parfois elle peut se corriger.
Dans les réponses, il n'y a pas de faute d'orthographe, des styles parfois poétiques, c'est bluffant.
C'est bluffant, on ne peut pas facilement, et on peut en réalité presque pas, faire la différence entre un texte écrit par ChatGPT et un texte écrit par un humain. Et puis on peut lui demander d'imiter un style, qu'il s'agisse d'imiter le style d'un discours officiel, d'un discours scientifique ou d'un écrivain. On peut s'amuser à lui faire parler de l'actualité contemporaine avec le style de Baudelaire ou de Ronsard.
Alors tout est très contrôlé, ainsi à la question « Imagine le discours que Hitler aurait fait sur le réchauffement climatique ». ChatGPT répond « Je refuse de créer un discours sur Hitler. Hitler a causé beaucoup de souffrance, son avis est sans importance. En revanche, je vous encourage à vous informer auprès de sources impartiales sur le réchauffement climatique. » Et c'est valable pour tout ce qui touche à des questions sensibles.
Oui, alors là, permettez-moi un petit rappel. Un modèle de langage, une intelligence artificielle linguistique, générative, elle est entraînée à partir de centaines de milliards d'écrits humains, des forums, des livres, le texte de Wikipédia. Quand elle fait ça, elle prend en elle-même toute une série de biais, de points de vue, qui peuvent être extrêmement choquant ou dérangeant. C'est pour ça qu'on a peur parfois des intelligences artificielles, on a peur qu'elles créent des biais, qu'elles soient racistes, qu'elles discriminent telle ou telle communauté. Pour éviter ça et pour avoir enfin une intelligence artificielle qui soit présentable, utilisable par le grand public, y compris par les enfants, la société qui a créé cette IA l'a alignée. C'est-à-dire qu'elle a demandé à des centaines et des centaines de milliers d'utilisateurs de noter les réponses pour que ces réponses se conforment en fait à non seulement à la vérité, mais aussi à un modèle d'un certain conformisme moral, en tout cas où tout sujet qui va toucher à la politique, au sexe, à la violence, soit absolument éliminé.
C'est un peu pour ça que vous dites que les intelligences artificielles sont intrinsèquement de droite parce qu'elles pensent l'avenir en se appuyant sur les données du passé.
Ben oui, parce que si vous demandez à ChatGPT de comprendre quelque chose au présent ou de vous prédire quelque chose à partir du futur, sa seule référence, ce sont des textes qui sont parfois des textes anciens. Donc effectivement, elle projette sur le futur les pensées du passé. C'est pour cela que la société qui est OpenAI, qui a fondé ChatGPT, qui est une société qui est, elle, très à gauche, américaine, démocrate, progressiste, a aligné ChatGPT sur des idéaux moraux beaucoup plus progressistes.
Est-ce que ChatGPT a réponse à tout ?
Alors, ChatGPT n'a pas réponse à tout, mais ChatGPT a réponse à beaucoup de choses. Dès qu'il s'agit de quelque chose qui est documenté par le savoir humain, par le discours humain, qu'il s'agisse de la manière de soigner un chat dans telle ou telle circonstance, de comprendre les lois de la thermodynamique, de faire un exercice de maths assez simple, ou d'avoir des informations sur telle ou telle chose, ChatGPT sait le faire. Dès qu'il s'agit d'une compétence linguistique, ChatGPT le fait très bien. Si vous voulez savoir comment on accorde le pluriel en birman, comportement ou comment on répond à une dissertation avec un plan en trois parties, ChatGPT le fait très bien. Sur des savoirs un peu plus rares, un peu plus difficiles, ChatGPT est beaucoup moins bon. Il peut se tromper lorsque les questions qu'on lui pose ne correspondent pas à son immense documentation.
En quelques mois, on a entendu s'exprimer beaucoup de craintes. ChatGPT, c'est la catastrophe pour l'éducation, le journalisme, la traduction. Ça va faire disparaître les professions juridiques et c'est la porte ouverte à la paresse. Vous, ça ne vous inquiète pas ?
Alors, j'ai un discours qui est très nuancé. Je ne pense pas que ChatGPT va prendre le contrôle du monde, ce qu'on appelle la singularité, qui serait le moment où les intelligences artificielles voudraient remplacer par elles-mêmes l'esprit humain. Je pense qu'on en est très loin. Je ne pense pas, comme des discours qui sont techno-pessimistes, que ChatGPT va forcément remplacer tous les emplois. Il y a beaucoup d'emplois qui sont non remplaçables. Par exemple, je pense que si ChatGPT peut vous faire un exercice scolaire, il ne remplacera pas l'école, il ne remplacera pas le professeur qui est devant vos enfants parce qu'il y a un échange humain, un échange incarné. En revanche, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse aux avantages et aux inconvénients d'utiliser une machine pour comprendre, pour analyser, pour écrire. C'est parfois formidable, ça nous permet de franchir des barrières linguistiques, de bien s'exprimer en anglais. Pour ceux qui ne maîtrisent pas un français correct orthographiquement, ça peut être un grand avantage. Mais en même temps, en faisant ça, on se déshabitue de notre habitude de rédiger, de traduire, de corriger, d'analyser un texte.
En tout cas, vous le dites, vous n'imaginez plus votre vie sans ChatGPT.
Est-ce que vous imaginez votre vie sans votre smartphone, sans Google qui répond à vos questions ou sans Google Maps qui vous oriente ? Non, voilà.
C'est une intelligence artificielle de langage, vous l'avez dit, mais ce n'est pas une intelligence artificielle qui prend des décisions sur nos vies.
Alors, non, elle ne prend pas des décisions sur nos vies, mais elle peut nous conseiller. Si vous lui demandez, par exemple, est-ce que je dois choisir telle ou telle carrière, elle va vous donner les pour et contre de telle ou telle carrière. Mais elle ne décidera pas pour vous. Simplement, elle a une capacité à vous influencer, ça c'est sûr.
En tout cas, pour bien utiliser ChatGPT, eh bien, il y a une foule de conseils dans votre livre. Alexandre Geffen, merci. Je rappelle son titre « Vivre avec ChatGPT » paru aux éditions de l'Observatoire.